Cinq lettres sur le culte et le ministère par l'esprit. Auteur, William Trotter. Cinquième lettre, diverses observations sur la dépendance réciproque des saints dans les réunions d'édification mutuelle, et sur d'autres sujets. Bien-aimés frères, mes remarques dans cette lettre seront plus décousues que dans les lettres précédentes, mon but étant de relever divers points qui ne pouvaient guère rentrer aisément dans les sujets que j'ai traités auparavant. Et d'abord, qu'il me soit permis de vous rappeler que tout ce qui se fait dans une réunion d'édification mutuelle, doit être le fruit de la communion. C'est-à-dire que, si je lis un chapitre de la parole, il ne faut pas que j'aie à feuilleter longtemps ma Bible pour y chercher un chapitre qu'il convienne de lire. Mais, en admettant que je connais plus ou moins cette parole, il faut que l'Esprit de Dieu m'ait mis au cœur la portion que je dois lire. De même, si une hymne doit être chantée, ce ne sera pas parce que j'aurai senti que le moment de chanter était venu, et qu'ainsi j'aurai cherché dans mon recueil une hymne qui me plaise. Non, mais il faut que, suivant la mesure de connaissance que j'ai du livre d'hymnes, l'Esprit de Dieu m'ait fait souvenir d'une des hymnes et m'ait poussé à l'indiquer. L'idée d'une demi-douzaine de frères parcourant leur recueil de cantiques et leur Bible pour trouver des chapitres et des hymnes convenables est aussi subversive que possible du véritable caractère d'une réunion d'édification mutuelle dans la dépendance du Saint-Esprit. Je puis, il est vrai, à cause d'une connaissance imparfaite de ma Bible, avoir besoin de chercher un chapitre que l'Esprit m'a mis au cœur de lire. Et la même chose quand il s'agit d'une hymne. Mais il est clair que c'est le seul but que l'on doit avoir en feuilletant l'un et l'autre de ces livres, lorsqu'on est assemblé sur le principe de la dépendance du Saint-Esprit pour s'édifier mutuellement. En second lieu, si ce que nous venons de dire était bien compris, il s'ensuivrait, comme une conséquence naturelle, qu'en voyant un frère ouvrir sa Bible ou son livre de cantiques, on saurait qu'il le fait avec la pensée de lire une portion de la parole, ou d'indiquer une hymne. Le passage. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 33. Empêcherait alors tout autre frère d'avoir l'idée d'agir dans la réunion. Jusqu'à ce que celui qui aurait ainsi manifesté son désir de lire, etc., eût mis la chose à exécution ou y eût renoncé. Ceci m'amène au sujet de la dépendance mutuelle, sur lequel nous ferons bien de méditer un moment. Dans ce chapitre, 1 Corinthiens chapitre 11, la question, quant aux Corinthiens, n'était pas le ministère, mais la manière de prendre la scène du Seigneur. La question du ministère se présente dans le chapitre 14. Mais la racine morale du désordre était la même dans les deux cas. Les Corinthiens ne discernaient pas le corps de Christ, et ainsi chacun d'eux était occupé de sa propre personne. Car lorsqu'on mange, chacun prend par avance son propre souper, verset 21. Il en résultait ce qui suit, et l'un a faim, et l'autre est ivre. Le principe du moi produisait là des fruits tellement visibles et tellement monstrueux, qu'ils choquaient même les sentiments naturels. Mais si, en allant aux réunions et en y étant, je ne fais que penser au chapitre que je lirai, à l'hymne que j'indiquerai, en un mot à la part que je prendrai au culte, le moi est, dans les choses spirituelles, le pivot sur lequel tournent mes pensées et mes sollicitudes, tout autant que si, comme les Corinthiens dans les choses naturelles, j'avais apporté un souper et que je le mangeasse, tandis que mon pauvre frère qui n'aurait pas pu s'en procurer un, s'en irait sans avoir souper. C'est dans la communion du seul corps de Christ, vivifié, animé, enseigné et gouverné par le seul Esprit, que nous nous assemblons. Et assurément la pensée de nos cœurs, En nous réunissant ainsi, ne devrait être ni le souper que j'ai, moi, à manger, ni la part que j'ai, moi, à prendre à la réunion. Mais la bonté et la grâce admirable de celui qui nous a confiés à la garde du Saint-Esprit, lequel ne manquera pas, si nous nous attendons humblement à lui, d'assigner à chacun la place et l'action qui lui conviennent. Sans qu'il doive y avoir en nous aucune préoccupation fiévreuse à ce sujet. Chaque chrétien n'est qu'un membre du corps de Christ, et, si les Corinthiens avaient discerné et réalisé cela, certainement celui qui avait un souper aurait attendu ceux qui n'en avaient point, pour le partager avec eux. De la même manière, si mon âme réalise cette précieuse unité du corps, et l'humble place que j'y ai comme en étant seulement un des membres, je me garderai d'agir dans l'assemblée avec une précipitation qui pourrait empêcher d'autres saints de le faire. Et, si je sens que j'ai une parole à adresser de la part du Seigneur, ou qu'il m'appelle à quelque service, je me souviendrai toujours que d'autres peuvent avoir aussi quelque chose à dire, avoir reçu le même appel. Et je leur laisserai du temps pour agir. Et, par-dessus tout, si j'aperçois un frère avoir son livre ouvert pour lire une portion de la parole ou pour indiquer une hymne, j'attendrai qu'il l'ait fait, au lieu de me hâter de le prévenir. Ces mots, attendez-vous les uns les autres, s'appliquent certainement à cela aussi bien qu'à la fraction du pain. Et dans le chapitre 14, nous trouvons que, lorsque des prophètes parlaient dans l'assemblée, par une révélation immédiate, ils devaient être tellement soumis les uns aux autres que, même quand l'un d'entre eux parlait, si un autre qui était assis recevait une révélation, le premier devait se taire. En outre, si, comme nous l'avons déjà dit, nous réalisions notre place dans le corps et l'unité de celui-ci, la portée générale et morale de cette parole, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, Jacques chapitre 1 verset 19. Nous enseignerait à nous attendre ainsi les uns les autres. Troisièmement, le but de notre réunion est l'édification. C'est là-dessus que l'apôtre insiste, dans 1 Corinthiens chapitre 14. Dans le chapitre 12, nous avons le corps de Christ soumis à lui comme à son Seigneur, et témoin ici-bas de cette souveraineté de Christ. En vertu de l'habitation en lui et de l'action du Saint-Esprit qui distribue ses grâces à chacun en particulier, selon qu'il le veut. Ce chapitre se terminant par la liste des dons, apôtres, prophètes, etc., que Dieu a placés dans l'Église dans leurs diverses places d'utilité ou de service pour tout le corps. Il nous est recommandé d'avoir du zèle pour les dons les meilleurs, mais en même temps il est fait allusion à un chemin par excellence, c'est-à-dire la charité ou l'amour, dont parle le chapitre 13. Sans laquelle les dons les plus magnifiques ne sont rien, et qui doit régler l'exercice de tous les dons, pour que le résultat en soit réellement l'édification. Celle-ci est le sujet du chapitre 14. Le don des langues étant le plus merveilleux aux yeux des hommes, les Corinthiens prenaient plaisir à l'étaler. Au lieu de l'amour cherchant l'édification de tous, c'était la vanité cherchant à faire parade de ses talents. Ceux-ci étaient réellement des dons de l'esprit. Et c'est ici pour nous, bien-aimés frères, une chose sérieuse à considérer, que la puissance de l'esprit manifestée dans les dons pour le service peut être séparée de la direction vivante du même esprit dans l'exercice de ces dons. Cette direction ne peut se faire sentir que là où le moi est crucifié, où Christ est tout pour l'âme. Le but du Saint-Esprit n'est pas de glorifier les pauvres vases de terre qui contiennent ces dons. Mais, et cela par l'édification de tout le corps, de glorifier Christ de qui ces dons procèdent, en donnant à ceux qui les ont reçus d'en faire usage avec grâce, humilité et renoncement à eux-mêmes. Combien ce renoncement à soi-même est beau dans l'apôtre Paul. Possédant tous les dons, avec quelle simplicité de cœur, il cherchait, non à les déployer, mais à exalter son Seigneur et à édifier les saints. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer 5 paroles avec mon intelligence, afin que j'instruise aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 versets 18 et 19. Combien elles ont de force, sorties de la plume d'un tel homme, ces paroles du Saint-Esprit. Que tout se fasse pour l'édification. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Et vous de même, puisque vous êtes zélateurs des esprits, cherchez à en avoir abondamment pour l'édification de l'assemblée. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 12. De plus, tout serviteur, pour être fidèle, doit agir d'après les directions de son maître. De là l'importance de ce sur quoi j'ai tant insisté dans ma dernière lettre, savoir que, si j'agis dans l'assemblée des saints, il ne faut rien moins pour m'y pousser que la pleine et sérieuse conviction dans mon âme, et devant Dieu. Que c'est bien selon la volonté actuelle de mon maître. Car, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains chapitre 12 verset 3. La mesure de foi que Dieu m'a donnée doit être la mesure de ce que je fais. Et Dieu, en leur donnant la mesure de foi nécessaire, aura soin que ses serviteurs sachent ainsi ce qu'il voudra qu'ils fassent. Une conviction ferme et sincère que telle est la volonté de Dieu, peut donc seul m'autoriser à agir comme son serviteur dans l'assemblée, et même partout ailleurs. Cependant, comme on peut faire abus de ce principe, Dieu a pourvu, par la direction contenue dans ce passage, que les prophètes parlent, 2 ou 3, et que les autres jugent, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 29. À ce qu'il y eut un frein à cet abus dans l'assemblée. C'est à mon âme, en premier lieu, de juger et de savoir si le Seigneur m'appelle à parler, ou à agir d'une autre manière, dans l'assemblée. Mais, lorsque j'ai parlé ou agi, c'est à mes frères de juger, et, dans la très grande majorité des cas, je dois me soumettre à leur jugement. En effet, il arrivera bien rarement qu'un serviteur de Christ se sente autorisé à continuer d'agir dans les réunions, quand même son action serait désapprouvée par ses frères. Si Dieu m'appelle à parler ou à prier dans les réunions, que ce soit vraiment de lui que procède ma conviction d'y être appelé. Il est évident qu'il lui est aussi facile de disposer les cœurs des saints à recevoir mon ministère et à s'unir à mes prières, qu'il lui est facile de disposer mon propre cœur à un tel service. Si c'est réellement l'Esprit qui me pousse à agir, le même Esprit qui agit ainsi par moi demeure dans les saints, et, dans 99 cas sur 100, l'Esprit dans les saints répondra au ministère et au culte par l'Esprit de la part d'un frère quelconque. C'est pourquoi, si, à l'ordinaire, je m'aperçois que mon action dans les réunions, au lieu d'édifier les saints, fut un fardeau et une peine pour eux, je serai autorisé à conclure que je me trompais en prenant cette position. Et que je n'étais point appelé à agir ainsi. Supposez, ensuite, que la raison qui empêche que le ministère d'un frère ne soit apprécié pendant un temps, se trouve être, non l'état de ce frère, mais celui de l'assemblée. Supposez que ce frère soit tellement plus spirituel que l'assemblée, qu'elle ne puisse ni goûter ni apprécier son service. Dans ce cas, qui n'est pas très fréquent, il se peut que ce serviteur de Christ doive examiner s'il n'a point à apprendre à être comme son maître, qui enseignait et annonçait la parole, selon qu'il pouvait l'entendre. Marc chapitre 4 verset 33. S'il n'a pas besoin d'un peu plus de l'esprit de Paul, qui pouvait dire « Nous fûmes 12 au milieu de vous, Comme une nourrice qui soignerait tendrement ses propres enfants, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Et qui dit aussi dans un autre endroit, je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter, et même maintenant encore vous ne le pouvez pas, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Si, malgré cette tendresse et ces soins pleins de discernement, le ministère de ce frère continue à n'être pas reçu, ce sera certainement une épreuve pour sa foi. Mais, puisque le but de ton ministère est l'édification, et qu'il est impossible que les saints soient édifiés par un ministère qui ne se recommande pas à leur conscience, il ne pourrait être d'aucune utilité de le leur imposer. Qu'ils fussent ou non capables de le recevoir. L'état général de faiblesse ou de maladie d'un corps peut amener la dislocation de quelques jointures. Dans un cas pareil, ce ne sera pas en forçant la jointure disloquée à fonctionner qu'on améliorera l'état du corps. C'est peut-être une chose déplorable que cette jointure ne puisse pas agir. Mais la seule manière de la remettre en bon état, c'est de lui accorder un complet repos, pendant qu'on cherche, par d'autres moyens, à rétablir la santé du corps. Il en est de même dans le cas que nous avons supposé. Continuer à exercer un ministère là où il n'est pas reçu, même quand la cause en est l'état misérable de l'assemblée, ne fait qu'ajouter de l'irritation à l'état généralement mauvais des choses, et ainsi le rendre pire. Le serviteur du Seigneur trouvera alors que sa sagesse, c'est de se taire. Ou bien peut-être, son maître veut-il lui faire comprendre de cette manière que sa volonté est qu'il exerce son ministère ailleurs. D'un autre côté, bien-aimés frères, permettez-moi de vous mettre sérieusement en garde contre le piège que, assez probablement, Satan cherchera maintenant à nous tendre. Je veux parler de l'esprit de critique à l'égard de ce qui se fait dans les réunions. Les efforts de l'ennemi ont toujours pour but de nous pousser d'un extrême à l'autre. En sorte que si nous avons péché par indifférence, en mettant trop peu d'importance à ce qui se faisait, pourvu que le temps fût rempli, il est plus que probable que nous serons maintenant exposés au danger contraire. Le Seigneur, dans sa miséricorde, veuille nous garder. Rien n'indique un état de cœur plus déplorable, et rien ne peut être un plus grand obstacle à la bénédiction, qu'un esprit de censure et de critique. Nous nous assemblons pour adorer Dieu et nous édifier les uns les autres, et non pas pour nous occuper à juger nos frères qui agissent, à décider qu'un tel exerce son ministère d'une manière charnelle, et qu'un autre pris par l'esprit. Quand la chair se manifeste, il faut, sans doute, qu'elle soit jugée. Mais c'est une chose triste et humiliante de la discerner et de la juger ainsi, au lieu de jouir ensemble, ce qui est notre heureux privilège, de la plénitude de notre divin Sauveur et Chef. Gardons-nous donc d'un esprit de jugement. Il y a des dons inférieurs, aussi bien que des dons plus grands, et nous savons qui est celui qui a donné plus d'honneur aux membres du corps qui en manquait. Les actes d'un frère dans l'assemblée ne sont pas, nécessairement, tous charnels, parce qu'il agit jusqu'à un certain point dans la chair. Et, à ce propos, il serait bon pour nous tous de peser ces paroles d'un serviteur de Dieu des plus estimés parmi nous. Il est des plus nécessaires, dit-il, que nous considérions premièrement la nature de notre don, et, en second lieu, sa mesure. Quant à cette dernière, je ne doute pas, permettez-moi de le dire, que plus d'un don qui n'est pas reconnu, ne le fut, si, dans l'exercice de ces dons, les frères qui les ont reçus n'en dépassaient pas la mesure. Si c'est une prophétie, agissons selon la proportion de foi. Romains chapitre 12 verset 6. Tout ce qui est au-delà de cette limite, est chair. L'homme se met en avant, et la chose est sentie et le don tout entier rejeté. Et cela parce que le frère qui a agi n'a pas su se renfermer dans la mesure de son don. C'est pourquoi sa chair agit, et ce qu'il dit est attribué à la chair. Et ce n'est pas étonnant. De même, quant à la nature du don, si un homme se met à enseigner au lieu de s'en tenir à l'exhortation, s'il peut exhorter, il n'édifiera pas, il est impossible qu'il édifie. Je désirerais surtout que l'attention de chacun des frères employés dans le ministère de la parole fût attirée sur cette remarque, qui peut-être ne leur parviendra jamais autrement, à cause d'un manque de fidélité de la part de leurs auditeurs. Ces paroles sont adressées à ceux qui exercent un ministère, mais je les cite, bien-aimés frères, afin que nous apprenions à ne pas condamner tout ce qu'un frère peut dire ou faire, parce que nous y discernons quelque chose de charnel. Reconnaissons avec action de grâce ce qui est de l'esprit, en le distinguant de toute autre chose, même dans le ministère et les actes du même individu. Il est encore deux ou trois petits détails sur lesquels je voudrais, dans la simplicité de l'amour fraternel, ajouter quelques mots. Et d'abord, quant à la distribution du pain et du vin à la table du Seigneur. D'un côté, il serait fort désirable que cette distribution ne fût pas constamment et exclusivement faite par un ou deux frères, comme si c'était là une distinction cléricale. Mais, d'un autre côté, je ne vois rien dans l'Écriture qui puisse autoriser quelque frère que ce soit à rompre le pain, ou à donner la coupe, sans rendre grâce. Dans Matthieu chapitre 26 versets 26 et 27, Marc chapitre 14 versets 22 et 23, Luc chapitre 22 verset 19, et 1 Corinthiens chapitre 11 verset 24. Il nous est dit que le Seigneur Jésus rendit grâce lorsqu'il rompit le pain et lorsqu'il prit la coupe. Et, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16, la coupe est appelée la coupe de bénédiction, ou d'action de grâce. Si, donc, l'Écriture doit être notre guide, n'est-il pas évident que celui qui rompt le pain, ou qui prend la coupe, devrait en même temps rendre grâce? Et, si quelqu'un d'entre nous se sentait incapable de le faire, ne serait-ce pas pour lui une raison de se demander s'il est bien appelé à distribuer le pain et le vin? Puis, quant à la direction ou à la surveillance dans l'Église, et aussi quant aux qualifications qui doivent se trouver dans ceux qui exercent un service ostensible au milieu des saints. Nous devrions tous étudier avec prière 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1. Le premier de ces chapitres, au verset 6, renferme une particularité dont il peut être bon qu'on nous fasse souvenir, qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Il est possible que l'appel de Dieu et le don de Christ se rencontrent chez un jeune homme comme Timothée, ou, dans l'Ancien Testament, comme Jérémie. Et ces mots, que personne ne méprise ta jeunesse, 1 Timothée chapitre 4 verset 12, s'appliquerait de nos jours à un tel jeune homme, comme anciennement à Timothée. Mais c'est à Timothée que ces paroles, qu'il ne soit point nouvellement converti, etc., étaient adressées. Sa jeunesse ne devait pas être un encouragement à agir pour ceux en qui ne se trouvait ni la grâce ni le don qui lui avait été accordé. Et il y a même une convenance naturelle à ce que le jeune homme prenne la place de la soumission plutôt que celle du gouvernement. C'est là un bel exemple que, malheureusement, on me paraît oublier quelquefois. Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et tous, les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, bien-aimés frères, nous donne de marcher humblement avec lui, et qu'ainsi rien ne s'oppose à l'œuvre de son Saint-Esprit au milieu de nous. Votre sincèrement affectionné.